Merci Philippe. Je pense que dans le commentaire que tu as fait de ce psaume, le chrétien que je suis, les chrétiens en général, se retrouveraient. Si je peux ajouter quelques petits éléments d'un point de vue chrétien, alors c'est un psaume qui est très important, le psaume 51. Déjà pour les chrétiens, enfin en tout cas, il y a ce qu'on appelle les offices, en particulier pour les consacrés, pour les prêtres. Et c'est un psaume qu'on retrouve toutes les semaines le vendredi matin, donc qu'on récite au moins une fois par semaine. Le verset 17, d'ailleurs, que tu as souligné comme un verset extrêmement important, l'introduction de la récitation de la prière par excellence, ce sont tes mots, la Hamida. Adonai Sfadai Tiftar ou Fi Yagit Elatecha, le Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange, et même le verset qui ouvre tous les jours, celui qui ouvre tous les premiers offices du matin. Je ajouterai aussi que la reconnaissance du péché et l'espérance du pardon ou du salut de Dieu est un thème fondamental qui est présent à l'ouverture de tous les sacrements, qui sont quand même les gestes les plus importants, je dirais, de la foi chrétienne, en particulier de l'Eucharistie. Enfin, il y a une intelligence de ce psaume qui est très bouleversante. Le sens du péché s'accompagne d'un sens, ou plutôt, le sens du péché s'appuie sur un sens de Dieu et de sa sainteté. Voilà. Au point que s'il n'était pas juif, concrètement, je penserais que ce psaume est chrétien. Voilà. Ou en tout cas que c'est un point de rencontre, vous voyez, particulièrement remarquable entre juifs et chrétiens. Dans le Nouveau Testament, ça m'a fait penser, à mon avis, il est présent à l'esprit de Luc quand il écrit les paraboles de la miséricorde, et en particulier la parabole du fils prodigue. On retrouve un certain nombre d'allusions, à commencer bien évidemment par la phrase que prépare et formule le fils quand il revient, « J'ai péché ». Contre le ciel et contre toi, avec la joie qui suit, la joie et l'allégresse qui suivent. Ensuite, même le veau gras que le Père fait tuer pour le retour de son fils peut évoquer les sacrifices qui sont mentionnés au terme de ce psaume, comme un sacrifice d'action de grâce. Mais bien sûr, c'est surtout le dynamisme fondamental de ce psaume qui fait passer de la mort à la vie. Alors, tu as proposé une partition en 5 éléments, 3 principaux, si on exclut le titre et la conclusion. On pourrait aussi, moi en lisant ce psaume, et en particulier le vocabulaire, on pourrait aussi voir, je dirais, précisément 2 grandes parties. Vous avez du verset 3 au verset 11, une répétition, une insistance, une espèce de saturation, vous voyez, du texte avec le vocabulaire du péché. Non seulement on y retrouve pécha, la faute, khatat ou het, le péché, mais avon, l'iniquité, mais on y trouve aussi ra, le mal que j'ai fait, mais on le retrouve répété, jusqu'à même, je dirais, une remontée à l'origine tout à fait impressionnante, puisque dans la souillure, j'ai été enfanté, dans le péché, ma mère m'a conçu. Voilà, donc là, il y a vraiment une première partie où le péché, je dirais, obscurcit tout le champ, toute la perception. Et puis, à partir du verset 12, le vocabulaire disparaît complètement. Voilà. Alors, on peut retrouver, effectivement, au verset 15, « J'enseignerai aux fauteurs, pshaim, tes chemins, ou aux pécheurs, chotim, les pécheurs viendront vers toi. » Mais ce n'est plus comme, je dirais, ce n'est plus le péché qui est invoqué, mais plutôt... L'idée fondamentale, vous le savez, c'est l'enseignement du salut ou de l'espérance, que le péché n'est pas final et que Dieu peut intervenir et en particulier créer en l'être ou la personne qui reconnaît son péché un nouvel être. Voilà. À partir du verset 12, en revanche, vous avez effectivement ce verbe de la création qui est quand même tout à fait remarquable, bara, mais aussi une répétition, mais d'un autre ordre, c'est le terme d'esprit. On retrouve un esprit ferme au verset 12, Ruach, alors je ne sais plus ce que c'est.
Nechona,
voilà. Ensuite, Ruach Kotchecha, ton esprit de sainteté au verset 13, ou encore, fais revenir vers moi la joie de ton salut, et un esprit noble, Ruach Nediva au verset 14. On a même Ruach, d'ailleurs, j'ai remarqué ça, au verset 19, un esprit brisé, voilà, Ruach Nishbara. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant de voir l'alternance qu'il y a entre un vocabulaire du péché insistant, multiplié, qui disparaît au profit, à partir du moment où apparaît le verbe de la création, au profit précisément de l'esprit. Voilà. Quand je disais que ce psaume pourrait être chrétien, j'imagine assez volontiers un commentaire de Père de l'Église, quand je lis « Fais revenir vers moi la joie de ton salut et un esprit noble soutient pour moi », vous savez que Jésus signifie « Dieu sauve enfin, », voilà, on dit « Yeshua » ou « Yesha » si on préfère, mais et j'imagine assez bien Père de l'Église parler à la fois de Jésus et de l'esprit à partir de ce psaume. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Moi, j'aurais deux questions quand même à propos de ce psaume. Justement, puisqu'il y a beaucoup de mots qui qualifient le péché, est-ce qu'il y a une... Enfin, comment peut-on faire la différence? Est-ce qu'on veut envisager une faute volontaire, une faute involontaire? Vous voyez, la totalité, vous voyez, du péché que l'homme peut commettre. Et puis la deuxième question, le verset 7 est très intéressant. Hein, c'est « Dans la souillure, j'ai été enfanté, dans le péché, ma mère m'a conçu ». Un chrétien, il verrait comme une espèce d'allusion à ce qu'on appelle dans la foi chrétienne le péché originel, qui dans le monde juif n'est pas tellement développé. Voilà. Oui. Donc, que faire de ce verset 7?
Oui, alors en effet, déjà dès le premier psaume, on voit qu'il y a un vocabulaire concernant le mal ou les fautes, un vocabulaire assez riche, hein, il n'y a pas que le terme de péché, hein, donc il y a le ret, il y a le pécha. Alors on donne des significations, on dit ret, qu'on traduit par péché, c'est raté en fait, hein, c'est rater la cible, donc un péché, ce qu'on traduit par péché en fait c'est rater la cible. Pécha, ça renvoie à péché, à ça renvoie à une négligence, on se laisse aller par les soucis de la vie ou par une certaine inconscience. Avon, c'est ce qui est tordu. Donc la tortuosité, c'est pour ça qu'on traduit l'iniquité, c'est-à-dire tordre la loi. Donc je pense que l'hébreu, sur un certain type de vocabulaire, propose une richesse. Comme par exemple le langage de la joie également, qui a le sasson, simcha, il y a différents verbes pour dire on est joyeux, ismeru hashamayim etagel haaretz, les cieux se réjouissent, la terre est dans l'allégresse, voilà. Donc je pense que ça part d'une la pluralité d'un vocabulaire dans un domaine donné souligne, dans une culture donnée, la perception avec finesse de la réalité. Vous voyez, quand il n'y a pas un seul vocable dans un langage, dans une langue, bon, bah, ça veut dire qu'on perçoit la réalité sous une forme massive, unique. Mais si on introduit beaucoup de nuances dans une thématique, alors ça voudrait dire que donc on a réfléchi aux notions et donc on a développé un langage en introduisant des nuances. Voilà. Donc l'hébreu, il a autant de vision de faute à partir des natures de la faute. Alors, ce qui va entraîner d'ailleurs, même dans les sacrifices, il y a des sacrifices qui sont offerts pour des fautes en pensée, des fautes en parole, des fautes en action. Il y a aussi des sacrifices, comme tu l'as dit, qui sont des sacrifices qui ne sont pas offerts ou présentés pour une faute, mais en action de grâce, en remerciement, au da'a, hein, voilà, toda, comme on a dit en hébreu moderne, toda, c'est merci, mais on appelle. Voilà, donc je pense que ce vocabulaire signifie qu'il y a toutes sortes de fautes. Et ça souligne, d'une certaine manière, qu'on doit rester vigilant dans la vie. Parce qu'on peut très vite basculer. On peut, par exemple, si on parle trop, on va finir soit par dire du mal de quelqu'un, soit peut-être, comme on dit, les mots ont dépassé ma pensée, puis on va faire du mal à quelqu'un. Donc, un vocabulaire riche dans un domaine, surtout ce domaine de la faute et du pardon, pourrait souligner justement la vigilance par rapport à mon comportement. On peut très vite fauter. Il faut toujours être un petit peu sur ses gardes, voilà. toujours analyser les situations. Bon, Lévinas dit que c'est un syndrome juif, je ne sais pas si vous prenez bien ou mal. Il dit que même avant de respirer une plante, une fleur, Lévinas dit ben, le juif y réfléchit. Bon, une manière de dire, voilà, on prend quand même une certaine distance avant de se lancer dans le monde. Bon, voilà, si ça peut répondre un peu à la question. Et quant à, alors, bien sûr, sur le verset de la faute, hein, du péché originel, alors oui, c'est Abraham Ibn Ezra, un maître du XIe siècle, espagnol, commentateur littéraliste, qui fait partie de l'école des littéralistes d'Espagne, comme Rashi, mais Rashi est un peu midrashiste aussi, souvent, et qui va dire, en fait, c'est la faute. Mais c'est vrai qu'on n'appelle pas le péché originel, mais il dit, du fait que déjà l'homme et la femme ont fauté dès le départ, eh bien, donc cette faute, cette tendance à la faute, elle va apparaître d'une génération à l'autre. Alors c'est vrai que dans le judaïsme, il y a moins cette pression du péché originel, où on dit que on a une prière le matin qui dit que l'âme que tu m'as donnée est pure, mais il y a toujours le défi de Adam et Ève, en quelque sorte, qui se pose à nous. En fait, il y a le défi d'Adam et Ève et de Caïn et Abel qui se pose dans chaque génération. Comment on se situe par rapport à Dieu? Comment on se situe par rapport à son frère? C'est pour ça que tradition dit, Dieu nous pose toujours deux questions. Ayeka, où es-tu? Comme il a posé la question à Adam. Et Evel Achicha, où est Abel, ton frère? Donc, où est ton frère? Donc, où en es-tu? Alors, bien sûr, Dieu sait où est Adam, et il sait ce qui est arrivé à Abel, mais la question, c'est où tu en es de ton humanité et où tu en es de ta fraternité. Donc, en même temps, oui, on peut dire que du fait que nous sommes des êtres de... Nous savons combien nous sommes non seulement mortels, comme disait Paul Valéry, notre civilisation, nous savons que nous sommes mortels, nous savons aussi que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des barbares, que nous sommes des violents, globalement, voilà, donc en nous, il y a une violence, il y a la faute, et donc, ce désir, il est en nous, hein, voilà. Donc, disons qu'on n'a pas théologisé la faute, mais en même temps, bien sûr, on ne va pas dire qu'on est des anges, puisque justement, on est des hommes, on n'est pas des anges. Et donc, il y a cette part de désir qui est en nous et qui ne demande qu'à se réveiller. C'est ce que Dieu dit à Caïn, d'ailleurs. La faute est tapie à ta porte. Hein. C'est vraiment le langage animal. Hein. La peta hatat rovetz. Rovetz, c'est l'animal qui a les muscles tendus. Donc, c'est le lion, par exemple. C'est un prédateur qui a les muscles tendus et qui est prêt à bondir. Vous voyez, avec toute cette puissance d'élasticité du corps qui va bondir. Eh bien, la faute, elle est comme ça. Mais en même temps, Dieu dit, voilà, tu peux dominer, vata timsholbo. Mais, donc ça revient un peu à la première réponse, c'est par la vigilance. Alors, est-ce que David essaye, dans la cohérence de ce texte, de trouver une sorte d'argument? Parce qu'on voit souvent dans les psaumes que le psalmiste essaye de donner des arguments du type, si tu me tues, je ne pourrais plus te louer. Voilà. Par exemple, dans le psaume 30, par exemple, il dit, voilà, si tu me tues, tu m'envoies dans le Sheol, eh ben, il y a une bouche de moi qui va louer ta gloire. Mais si tu me donnes une chance supplémentaire, eh bien, je pourrais louer ta gloire. Vous voyez, il y a des fois une sorte d'échange comme ça avec Dieu. Il ne faut pas s'étonner, hein, c'est dans la Bible, Moïse, il dit bien à Dieu, si tu ne pardonnes pas, tu m'effaces du livre, quoi. Dans le rapport entre le croyant et Dieu, dans la Bible, c'est un échange des fois même brutal, mais Dieu ne s'offusque pas de ça, hein, parce que ça fait partie du jeu et du pari de Dieu. Hein. Bon, Jonas, il veut s'enfuir, ok, moi je vais te rattraper, mais ça va, je vais te montrer en quoi c'est important ce que tu vas faire. Moïse dit, tu m'effaces, ok, je pardonne, voilà. Donc il y a une sorte de réciprocité, c'est vraiment le dialogue je et tu, voilà.
Merci. Vous avez peut-être des questions?
Oui.
Je voudrais revenir sur ce fameux verset 7. Est-ce que l'acte sexuel serait
Voilà. Alors, c'est pas ce que dit le texte. Oui, on pourrait l'entendre comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un péché dans la mesure où Dieu, ayant créé l'homme et la femme en disant « croissez, multipliez », la physiologie que Dieu a placée en nous, c'est qu'il n'y a de relation que s'il y a le désir de l'un vers l'autre. Par exemple, un homme et une femme qui n'ont pas le désir l'un vers l'autre, ils ne pourront pas avoir des enfants. Pour qu'il y ait la relation intime, il faut qu'il y ait un minimum de désir de l'un vers l'autre. Hein ? Donc, on pourrait dire que cette part de désir, elle procède de Dieu. Dieu nous a créés comme ça. Hein ? Parce que, on pourrait imaginer que Dieu nous crée autrement. On aurait pu être hermaphrodite ou androgynos, voilà, et on aurait enfanté d'une autre manière. Ou on aurait vécu comme des paramécies en se divisant en deux. Je veux dire, dans la sagesse infinie de Dieu, on pourrait imaginer toutes sortes de possibilités, hein, comme les rabbins qui disent pourquoi Dieu a créé une bouche. Il aurait pu créer deux, une pour le profane, une pour les prières. On dit non, finalement, il faut contrôler sa bouche pour que même ce qui est profane soit prière. Bon. Alors, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire je pars du fait que Dieu a créé un homme et une femme, Zahar, Nekeva, ils ont deux fonctions différentes. Zahar, c'est la mémoire, Nekeva, c'est des trouées, des ouvertures. La femme, c'est l'avenir de l'homme, c'est ce que dit la Bible déjà. Hein. Et puis, Dieu dit que croissez, multipliez. Mais croissez, multipliez, ça procède de ce désir. Le problème, c'est que le désir, peut-être en lui-même, n'est pas... Parce qu'un acte d'amour entre un homme et une femme, c'est un acte d'amour. C'est justement, c'est pas un viol, c'est un acte d'amour. C'est un don de l'un vis-à-vis de l'autre. Au point que, surtout dans la Kabbale... On dit que lorsque l'homme et la femme se rencontrent le jour du Shabbat, en particulier, la présence de Dieu, la Shérina, est au-dessus comme sur l'arche sainte où les deux chérubins se tendaient les ailes. Voilà. Donc, c'est pas le désir en lui-même de l'homme et la femme qui serait condamnable ou qui serait fautif, c'est que nous sommes des êtres de désir, et si ce désir n'est pas géré, ben, y a le débordement du désir. Tant que le désir s'exprime dans le domaine du licite, eh bien, ça procède on pourrait dire, de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, vous mangez de tous les arbres du jardin, et prenez-en plaisir, je vous ai créé un monde pour que vous puissiez tirer une jouissance de ce monde. Les bénédictions qu'un juif pur récite avant de consommer quelque chose s'appellent des bénédictions de jouissance. Avant de boire de l'eau, on dit « Béni sois-tu éternel qui a tout créé par ta parole ». Il y a une jouissance de la boisson. Voilà. Simplement que cette jouissance reste dans le cadre. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on pourrait dire que, enfin, du point de vue de la tradition juive, c'est pas la jouissance en tant que telle qui est condamnable ou qui serait péché, c'est le débordement de la jouissance. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est ce que dit Nathan, finalement. Si tu avais un désir de femme, toi, le roi David, tu pourrais avoir n'importe quelle brebis du pays d'Israël. Et tu n'aurais pas été condamné pour ça. D'ailleurs, à la fin de sa vie, David a à la Shulamite qui vient le réchauffer. On dit, voilà, on va chercher une jeune fille, une belle jeune fille pour réchauffer le roi. Voilà. Donc, là, c'est pas condamné. C'est parce qu'il a pris la femme du voisin. Et donc, son désir n'a pas été limité. Là, oui, là, c'est la faute.
Oui, mais il peut y avoir des figures de style, si vous voulez. Il peut y avoir des figures de style dans la Bible. On peut le lire de manière effectivement littérale, comme vous le proposez, mais il y a aussi des figures de style. C'est-à-dire, quand on commet un péché, le retentissement de ce péché remonte, enfin, altère jusqu'à notre origine. Ça va dans le sens, finalement, de tout le psaume. Dans le contexte qui est celui du psaume, c'est en quelque sorte que tout péché, même, je dirais, ordinaire, altère, finalement, ce qui est à l'origine de ma propre existence, c'est-à-dire la création. D'où l'importance de Dieu, la vocation ou l'appel à Dieu de créer à nouveau. En fait, par exemple, quand David, si je reprends le psaume, le chapitre 11, 12 du deuxième livre de Samuel, comment réagit David quand Nathan lui raconte sa parabole? Sa première réaction, c'est de dire cet homme, c'est un Ben Mavet. Donc, fils de mort. Hein, en quelque sorte, la mort a été son origine. Le péché est tel que c'est dans la mort qu'il l'a conçu ou qu'il a été conçu en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, on est en train d'envisager l'origine de cet homme, mais c'est une manière, c'est une hyperbole pour exprimer, je dirais, la gravité d'une faute.
Mais je voudrais ajouter quelque chose. Moi, je pense que c'est la psychanalyse qui nous aide à comprendre ce verset aussi. On peut être pour ou contre, hein, la psychanalyse est fondée sur un mythe, on pourrait dire, voilà, au départ. Mais ça fonctionne, ça peut fonctionner. C'est que, en fait, nous portons en nous plus que nous-mêmes. Et donc, nous ne sommes pas l'origine. Parce que si vous posez la question d'où viennent nos idées, d'où viennent nos fantasmes, d'où viennent nos désirs, on n'est pas une génération spontanée. Donc, on vient d'une mémoire qui vient elle-même d'une mémoire. Et d'ailleurs, c'est le travail psychanalytique. On dit qu'il fallait que ce soit un juif athée pour pouvoir créer la psychanalyse. Mais il y a quelque chose. En moi, il y a plus que moi. Oui, qu'un. Oui. Oui, il est pas mauvais, mais il n'en reste pas moins libre. Oui, il n'en reste pas moins libre. C'est vrai. D'après la lecture du chapitre 4, il n'est pas dit que Adam a connu Ève après la faute. C'est qu'il a connu avant. Parce que le sujet est avant le verbe. Adam, yada. Donc ça veut dire, et Adam avait connu. Donc il l'a connu avant la faute. Et malgré cela, l'homme reste libre devant le choix de Dieu. Et voilà, et donc Dieu dit à Caïn, si tu t'améliores, imtétive et imlotétive. Donc bon, pour revenir à cette question de alors on peut bien sûr concevoir ça sur un plan religieux, sur un plan théologique, c'est cohérent. On pourrait peut-être dire que Abraham et Ben Ezra, peut-être il dit quelque chose comme ça de l'ordre d'une sorte d'un péché originel, mais on peut aussi comprendre sur un plan purement psychologique que ce qui fait que nous fautons, c'est peut-être plus que nous. C'est les manquements de nos propres parents que nous traînons sans savoir pourquoi. Et c'est pourquoi certains vont sur un divan pour essayer de comprendre qui ils sont. Et pour comprendre qui ils sont, il faut revenir à la mémoire. Racontez-moi vos rêves, racontez-moi votre enfance, racontez-moi. C'est pas seulement pour raconter, je pense que c'est vraiment pour aller le plus loin de soi-même, pour... Je vais vous raconter une anecdote, quoi. Je n'ai rien à faire parce que c'est un collègue, on dit comme ça, un collègue. Voilà, qui est venu me voir il y a quelques années. C'est un prêtre psychanalyste. Et il est venu, il avait assisté à une de mes conférences, il m'a dit, je voudrais prendre rendez-vous avec vous. Il m'a dit, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu psychanalyste. Parce que c'est rare, peut-être... Un curé doit être naturellement psychanalyste parce qu'il entend tellement de choses qu'il connaît un petit peu l'âme humaine. Il m'a dit parce que je voulais me désanti-antisémitiser à cause de mon éducation antérieure à Vatican II. Et j'étais travaillé entre ce qu'on avait enseigné à Vatican II et ce que moi j'avais reçu. Et je sentais que j'avais des tendances anti-judaïques. Il a fait une psychanalyse, il a dit « j'ai retrouvé ma paix » parce qu'il y avait ma part à moi et il y a la part de mes parents et peut-être d'une certaine manière d'enseigner. Donc je ne dis pas que c'est la seule lecture, mais je pense que ça peut nous... Dès l'instant, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire. Je pense qu'une approche psychanalytique, même sans rentrer dans tous les détails de la psychanalyse, mais peut-être comme fait Marie Balmary, par exemple, ou Gérard Haddad, mon cousin, le psychanalyste également... Chacun dans sa voix, freudienne, lacanienne ou autre, ça peut nous aider. Ce verset peut s'entendre aussi. Si je faute, c'est peut-être que déjà de la part de ma propre mère, hein, il y a peut-être quelque chose. Ah non, c'est ben justement non, il se disculpe pas puisqu'il dit non, c'est ben non justement.
Il y a peut-être une autre question. Vous voyez qu'il y avait une réaction là en face.
Voilà.
Non.
Oui. C'est toujours les femmes, oui, ça c'est vrai.
Oui. Il y a quelque chose que j'ai compris. Je voudrais
Oui.
Et je me dis, mais c'est génial parce que on entend un petit peu moins de morale et beaucoup plus de joie.
Oui.
Du pardon dans la catéchèse, dans l'enseignement général.
Ben je crois que c'est inversé, que ceux qui s'engagent en religion, qu'ils soient juifs ou chrétiens, entendent. Moi, personnellement, mon père, en tant que bon juif séfarade, voyait son fils médecin ou avocat ou ingénieur. Et quand j'ai dit que je voulais être rabbin, ça n'a pas plu, quoi. Mais il fallait négocier, hein, voilà, avec son papa, il faut le respecter aussi, c'est pas... Voilà. Alors, puis il y a la maman juive qui essaye d'arranger tout ça. Mais voilà, mais c'est inversé. Voilà, c'est la joie. C'est pas pour raconter ma vie, mais bon, c'est... Voilà. Moi, j'ai pas été éduqué dans la religion, on pourrait dire. Mes parents venaient de Tunisie, ils avaient d'autres soucis que Dieu. C'était des soucis matériels, voilà, trouver un travail en arrivant ici, en France. Et puis, il y avait pas de communauté juive, en plus. Ils sont venus très, très tôt. Et moi, j'avais pas reçu cette éducation. Et puis, oui, c'est une rencontre. Moi, j'ai eu une rencontre. D'abord, c'était avec un maître de Talmud Torah qui m'a fait rencontrer Dieu. Voilà. Et après, ma vie, elle a été transformée. Pour moi, c'était la joie d'enseigner. Voilà. Je me voyais plus faire du dessin industriel ou fabriquer des machines. Voilà. J'ai beaucoup de respect, bien sûr. Toutes les vocations, tant qu'elles ont un sens devant Dieu, on les assume. Hein, c'est l'appel. Mais voilà, ce verset, oui, ça a été un verset fondateur. J'ai envie d'enseigner la joie que j'ai reçue de rencontrer Dieu. Vous
voyez ? Ça devrait être. Je pense que Paul, tous les apôtres, ça
appartient de ça. Oui, oui, oui. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse être fauteur et qu'on sente ses failles, etc. Ça n'empêche pas l'autre et qu'on ait des manquements. Voilà. Oui.
Je voulais dire quelque chose. Je n'ai jamais oublié que Dieu est vraiment bon. David faute. Il se garde sa faute. Il la regarde tous les jours. Il la trouve belle, puisqu'il a tué une mari. Elle est encore plus à elle. Et il demande pardon constamment, mais il la garde. Et Dieu ne lui dit pas de la quitter.
Oui. Voilà, vous posez la question, pourquoi Dieu ne demande pas de quitter
Bathsabée.
Bathsabée.
Ah ben, il a fait ce qu'il voulait.
Oui. C'est exact. Dieu, c'est vrai. Dieu a, c'est-à-dire David a pris conscience de sa faute. L'enfant de cette union meurt comme Ouri est mort. Voilà, et mais Dieu ne va pas demander plus. Voilà. Enfin, merveilleux. Ce texte nous est enseigné, pas pour qu'on fasse comme David. On dit, puisque David, il a pardonné, puisque Dieu a pardonné à David, voilà, fautez et Dieu vous pardonnera. C'est pas un slogan. Hein. C'est mai 68, ça. Fautez et Dieu vous pardonnera.
On pourrait envisager aussi, d'un point de vue extrêmement pratique, que renvoyer Bathsabée, ce serait ajouter un péché au premier péché, dans la mesure où il la renvoie sans mari, c'est-à-dire une veuve sans ressources. Et au moins, il a des obligations par rapport à elle, celle de l'établir comme sa femme ou une de ses femmes, et donc de lui devoir un certain nombre de droits.
C'est marqué dans la Torah, un homme qui viole une femme devient sa femme. C'est pas un objet de... sexuel. Mais enfin, ce récit, quand même, nous est enseigné, pas pour dire qu'il faut faire comme David, et puis après, on va demander à Dieu pardon. De toute façon, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un verset dans la Torah qui dit qu'une femme violentée, elle est sous la responsabilité de celui qui la viole. Cette femme, elle est violée, elle ne peut plus se marier. Personne n'en veut. Dans le contexte, eh bien l'homme est tenu de subvenir à ses besoins. En tout cas, il doit subvenir à ses besoins. Peut-être pas tous les jours.
Voilà, il doit subvenir à ses besoins.
Voilà, c'est voilà. Ça.
Aujourd'hui, il y a des virements possibles, mais à l'époque de David, et voilà, ça n'existait pas.
La descendance.
Ce qui arrive à ses enfants,
oui. Il se passe quelque chose. Il y a David avant la faute avec Bethsabée et il y a David après, parce qu'il y a les révoltes des enfants, etc. Voilà. Ça nous ouvre sur d'autres perspectives, parce que c'est la dernière séance ici à la synagogue. On s'ouvrira encore une fois à la paroisse, et puis on va mettre en place un prochain programme, si vous êtes d'accord de continuer. Donc on pourra très bien choisir encore des textes à lire, à commenter, à étudier. Nous, dans la tradition juive, on dit il ne faut pas partir avec des réponses, il faut partir avec des questions. Comme ça, au moins, la curiosité reste entière et on a envie de revenir. Oui. Vous êtes plutôt catholique, oui. Mais vous êtes un peu juive aussi. D'accord.
En fait, c'est par rapport à la conception du péché, comme quoi le rabbin dit que le péché, en fait, c'est comme une gomme qui peut s'effacer. Mm. Et à ce que j'ai compris de et que je ne deviens saint que par la sainteté de Dieu.
Oui.
Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moment où, finalement, quand on devient saint, alors que l'Église ne déclare saint que les gens qui sont morts, est-ce qu'on peut devenir saint quand on est vivant ?
Quand on est vivant,
oui. Oui. C'est
un grand sujet, ça. Oui. Alors, le texte, si on prend que ce texte, vous voyez, le psalmiste, l'auteur de ce texte, en tout cas, compare le pardon de Dieu à une lessive qui vit ça. Voilà, laver le corps, laver le vêtement. Et en effet, dans cette logique, la faute, hein, le péché, qui est comme une tache, hein, finalement, eh bien, va être effacée, mais c'est Dieu. La seule chose qu'on peut faire, c'est de présenter le vêtement, la tache, en disant, voilà... Voilà ma tâche, voilà ma faute, et je reconnais que j'ai commis cette faute, et toi, Seigneur, lave ce vêtement, et purifie-moi. Donc c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, qu'il y avait à la fois le passage du corps au spirituel, hein, le lavage et la purification. La purification, c'est plutôt de spirituel, du côté de l'âme, et le lavage, c'est le côté du corps ou du vêtement. Bon. Alors, vous voyez, dans ce langage, dans tout ce texte, n'est pas mentionnée la notion de sainteté.
Sauf l'esprit de sainteté.
Oui, oui, l'esprit de sainteté, oui. Mais, on avait étudié, peut-être vous n'étiez pas là, sur la Kedusha, le chapitre 19 du Lévitique. Hein, c'est-à-dire que, dans le judaïsme, on avance en sainteté, on monte en sainteté. On ne dit pas qu'il y a des saints. Mais il y a des hommes, des femmes, qui font un vœu, qui essayent, dans leur existence, de toujours progresser en sainteté. Ce n'est pas un état, la sainteté, bibliquement. C'est un projet de vie. Vous voyez ? Donc, il n'y a que Dieu qui est saint, en fait. Kadosh, 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 saint, 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 éternel. Mais l'homme, ou la femme, c'est-à-dire l'être humain, peut avancer en sainteté. Vous voyez ? Donc, mais bien sûr, une des conditions de cette sainteté ou de cette avancée en sainteté, c'est justement de ne pas fauter, ou bien si on faute, reconnaître ses fautes, c'est-à-dire d'avoir une vie vertueuse, une vie morale, une vie spirituelle, comme cela est enseigné aussi bien en judaïsme que dans le christianisme, les ordres religieux, etc., qui enseignent une manière de vivre, de se comporter, voilà, parce que si on vit dans l'insouciance et dans la légèreté, hein, bon, il n'y a pas de vie, de vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est un état de conscience qu'on est toujours devant Dieu. Hein. Alors, dans un monde qui nous fait oublier, finalement, par les réjouissances, voilà, on va au cinéma pour oublier, on va au café pour oublier, on va voir un match de foot pour oublier. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'aller... c'est pas ce que je dis. Je veux dire, c'est vrai que pour être dans un état de sainteté, il faut un certain état de conscience. Et les hommes et les femmes qui vivent à cet indice d'état de conscience, on peut dire à notre échelle que oui, ils sont dans la sainteté, ils progressent vers la sainteté. Voilà. Mais si quelqu'un reconnaît qu'il a fauté, ben, il y a toute cette démarche de repentir. Du cœur contrit, et ce n'est pas en offrant des sacrifices, ou je ne sais pas, moi, dans notre temps contemporain, c'est pas parce que quelqu'un va envoyer un gros chèque à la synagogue que ça va... Voilà, dans la cohérence de ce texte, c'est pas le gros chèque qui va faire qu'il est pardonné s'il continue à faire des bêtises ou des malversations, vous voyez ? Ah, nous croyons, oui, c'est-à-dire c'est un acte de foi que si l'homme revient sincèrement vers Dieu, que ce soit à Kippour ou en dehors de Kippour, d'ailleurs Kippour c'est pour la collectivité, mais individuellement, si oui, nous croyons d'une foi sincère que, d'après les textes, que si on revient sincèrement vers Dieu et que Dieu sonde notre rein, nos cœurs, notre cœur, et que nous sommes sincères, et oui, nous croyons que Dieu pardonne.
C'est pas très différent de la conception chrétienne du pardon, même si... d'abord, le terme d'effacer, ou le verbe effacer, n'est pas le seul qui est utilisé dans ce psaume pour parler du pardon. Il y a le verbe de... On insiste davantage d'ailleurs sur le verbe purifier que sur le verbe effacer, mais vous avez aussi le verbe laver, ou le verbe devenir blanc. Mais ce n'est pas très, très différent de la conception chrétienne, même si, d'une certaine manière, il y a toujours une mémoire de ce qui a été fait, ou plutôt, l'œuvre de Dieu est telle que même le péché lui-même, une fois le pardon obtenu, devient quelque chose de positif. Par exemple, dans la foi chrétienne, on n'hésite pas à dire « bienheureux péché », qui nous a valu un tel rédempteur, on le personnifie, on pourrait dire une telle rédemption, un tel pardon. Voilà. Bienheureux péché, vous voyez, c'est un peu du langage hyperbolique en un sens, un peu comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qualifier de bienheureux le péché, c'est un peu contradictoire, mais c'est pour valoriser la rédemption, le pardon, l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie pour nous. Voilà. Je ne vous bénis pas pour le péché que vous avez fait, mais pour le fait que vous le confessiez, que, comme disait Philippe tout à l'heure, on soit obligé, pas simplement d'exprimer sa pensée, de le dire. Voilà. C'est très important qu'il y ait une forme d'extériorisation. Extériorisation, c'est-à-dire une prise de conscience, comme une espèce de recul par rapport à l'expérience, qui vous permet, où vous êtes capable de juger de ce que vous avez fait.
Ah.
Disons que si on apprend, si on reconnaît que c'était une faute, maintenant, si vous ne le reconnaissez pas, vous avez...
Oui. Voilà, au contraire, parce que sinon, si vous répétez, ça devient votre habitude. Vous ne vous rendez plus compte que c'est une faute. C'est toujours un état de conscience.
Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est... Tout à l'heure, je vais faire une petite... Je vais m'amuser un peu, mais tout à l'heure, j'étais... Philippe est un rabbin étonnant parce qu'il est capable de vous dire que son film préféré, enfin un de ses films préférés, c'est sur Sainte Bernadette. Moi, je suis peut-être un prêtre étonnant parce que parmi mes auteurs préférés, ce sont des auteurs juifs. Et en particulier, un que j'aime beaucoup, qui est Elie Wiesel. Elie Wiesel a écrit de très nombreux ouvrages, et un dont le titre est tout à fait intéressant, il s'appelle « L'oublié ». Vous savez le thème de ce livre ?« L'oublié », c'est un homme qui est atteint d'une maladie étonnante, il est en train de perdre la mémoire. Et son fils, pour en quelque sorte lui garder une certaine consistance, une certaine conscience, va refaire tout le trajet de son père. Il vit aux États-Unis, il va revenir en Europe, en particulier dans tous les endroits où son père est allé, et finalement aboutir à ce qui est la raison de l'oubli. Tout à l'heure, Philippe, tu as dit « L'oubli cache toujours l'occultation de la loi de Dieu. » Le père, à un moment donné, a été témoin d'un crime, et il n'a rien fait. Et c'est le point de départ, vous voyez, de cette étrange maladie de perte de mémoire. Donc, l'effacement, oui, c'est une image qui est utilisée dans le psaume, donc je ne vais pas la refuser, mais vous voyez qu'à l'inverse, l'oubli, ça peut être au contraire une image du péché, de ce que le péché est capable de faire, on occulte la loi. On ne s'en souvient plus.
C'est ça.
Oui, ben c'est le psaume 51.
Vehatati, oui, il dit ma. C'est-à-dire, il garde la mémoire, justement, il garde la mémoire de sa faute. Il dit Vehatati neglitamid, ma faute est toujours devant moi, parce que se sachant faillible une fois, il pourrait recommencer. Donc, la manière dont le texte est présenté. On imagine ici David qui a, c'est pour ça que le rabbin dit qu'il a écrit sa faute sur les murs, manière de dire, oui, j'ai failli, donc voilà, je suis un être faillible. Voilà. Pour ça, on prie pour ne pas tomber comme un peu dans le Notre Père, où justement que nous n'entrions pas dans la tentation, dans la séduction, dans la faute. Voilà. Parce qu'on se sait pauvre pécheur, ça veut dire travailler pour nos désirs. Voilà.
Et la question de la sainteté, j'aime bien l'image du projet, de vie. Ou en tout cas, c'est une qualité exclusive à Dieu. Voilà, c'est un projet de vie peut-être, puisque Dieu dit « Vous serez pour moi une nation sainte ».
Voilà.
Donc il y a quand même une communication de ce qui est propre à Dieu, à la nation, qui est en relation, en alliance avec lui. Mais j'aime bien cette formule de saint Augustin, je vous la résume en termes un petit peu modernes. Un saint, c'est pas quelqu'un qui a bien commencé, c'est quelqu'un qui a bien fini. Il en savait quelque chose, puisque le début de sa vie a un peu ressemblé à ce de David.
Bon, parce que il faut aimer notre prochain. Il y a aussi un gardien là qui doit aussi partir. Donc, de toute façon, on continuera. Merci de vos questions, c'était très riche. On a terminé. On donne juste la prochaine date.